Vous écoutez
RMC.
Expliquez-nous.
Expliquez-nous, Nicolas. L'Agence internationale de l'énergie atomique a rendu hier son rapport sur la centrale ukrainienne de Zaporijjia. Rapport qui demande l'établissement d'urgence d'une zone de sécurité autour de la plus grande centrale nucléaire d'Europe.
Oui, parce que la situation actuelle est intenable. C'est la conclusion des 6 experts internationaux qui ont pu visiter la centrale le week-end dernier. Ils demandent que les bombardements cessent tout de suite sur la centrale et autour, pour éviter, je cite, de nouveaux dommages aux installations. L'agence de l'ONU, dans son rapport, demande donc la mise en place d'une zone de sécurité et de protection, ce qui veut dire une zone démilitarisée autour de la centrale. Et elle souligne les conditions extrêmement stressantes dans lesquelles travaille le personnel ukrainien sous le contrôle des forces russes. Les bombardements, les dégâts déjà causés, l'occupation militaire de la centrale, tout cela donc crée, je cite, un risque d'accident nucléaire et une situation intenable, ont donc conclu les experts.
Mais qui bombarde la centrale ?
Alors, les deux parties s'accusent mutuellement et les accusations sont précises. Pour la seule journée d'hier, les Russes affirment que les Ukrainiens ont tiré à 15 reprises sur la ville voisine d'Energodar. Les Ukrainiens ont, eux, compté 88 tirs russes, toujours pour la seule journée d'hier, dont 3 tirs de missiles et 35 attaques aériennes. La vérité, c'est que les Russes et les Ukrainiens se battent à proximité de la centrale et ils se tirent dessus depuis plusieurs semaines.
Au risque de toucher les réacteurs ?
Alors, en réalité, c'est pas le risque le plus sérieux parce que ces 6 énormes réacteurs sont protégés par du béton qui est capable de résister à peu près toutes les bombes. Ce qui inquiète beaucoup plus les spécialistes, ce sont les dommages causés aux lignes électriques. Les Russes ont endommagé les lignes à haute tension qui relie la centrale au réseau ukrainien. Les Ukrainiens ont également tiré sur des lignes à haute tension que les Russes sont en train de construire pour relier la centrale à la Crimée. Pour faire simple, les Russes tentent en ce moment de piquer l'électricité des Ukrainiens pour le distribuer dans les zones qu'ils contrôlent. Les Ukrainiens s'y opposent militairement et ce sont ces combats qui sont potentiellement très dangereux.
Même si la centrale actuellement ne produit plus d'électricité.
Non, le 6e réacteur sur 6 a été mis à l'arrêt lundi. L'opérateur ukrainien l'a débranché à cause d'un incendie sur une ligne électrique, incendie causé par un bombardement. La centrale donc ne produit plus d'électricité, mais en revanche, elle en a besoin. Il faut du courant pour faire fonctionner les circuits de refroidissement. Lorsque les réacteurs sont à l'arrêt, Zaporijjia est alimentée par une centrale thermique voisine. C'est donc le cas en ce moment. Si les lignes qui relient ces deux centrales devaient être endommagées, alors des groupes électrogènes seraient appelés au secours. Mais si ces groupes, pour une raison ou une autre, ne devait pas marcher, alors ce serait tout simplement la catastrophe. Parce que privés des circuits de refroidissement, les réacteurs sont aussitôt en surchauffe et en moins de deux heures, le cœur du réacteur peut entrer en fusion. C'est ce qui s'était passé à Fukushima en 2011.
Et en cas de catastrophe nucléaire, est-ce qu'on sait quelles seraient les zones touchées ?
Alors, les Ukrainiens ont étudié le scénario. Ils ont imaginé un accident qui aurait eu lieu dimanche dernier à 17h33. Et puis, ils ont observé la météo et fait tourner les ordinateurs. Et voici ce qui serait passé si l'accident avait eu lieu ce jour-là. Un nuage radioactif se serait d'abord dirigé vers le sud. Il aurait touché les zones contrôlées par les Russes, notamment la Crimée. 15 heures après, c'est-à-dire lundi matin, il aurait touché chez Odessa et la Moldavie. Puis après 24 heures, ce nuage se serait scindé en deux, une partie continuant vers le sud et atteignant la Turquie et la Grèce, et une autre partie se dirigeant vers l'ouest et survolant rapidement la Hongrie puis la Pologne. Le scénario des météorologues ukrainiens s'est arrêté là, 72 heures après la catastrophe supposée, mais il suffit de regarder la carte pour comprendre ce qui serait passé après. Après la Pologne, c'est l'Allemagne, la Belgique et la France qui auraient été touchés.
Et donc, des alertes prises extrêmement au sérieux au niveau international. Merci pour ces explications, Nicolas.